Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Antoine Guillot et Philippe Azoré pour parler ensemble d'Atlantique, de Mathilde Diop, Alice et le maire de Nicolas Pariset. Et puis une exposition, L'œil extatique, Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts. C'est au centre Pompidou-Metz. Il y aura un coup de cœur de Philippe Azoré qui sera de fait un hommage au cinéaste colombien Luis Ospina dont on a appris la mort vendredi dernier. Nous ouvrons cette dispute avec Atlantique de Mathilde Diop, un des films qui a fait sensation au dernier festival de Cannes. La jeune cinéaste ancienne du Fresnoy récoltant le Grand Prix avec son premier long métrage. L'action se déroule dans un quartier de Dakar, Adai M. Souleymane, mais elle est promise en mariage à un autre. Souleymane, qui est ouvrier sans salaire, comme les autres depuis plusieurs mois, décide de quitter le pays en tentant de partir par la mer. Avant la dispute, un premier tour de table pour résumer votre impression sur Atlantique de Mathilde Diop. Corinne Rondeau.
Plutôt compliqué.
Philippe Azoré.
Combustion spontanée, c'est bien ça.
C'est un résumé. Rire fou. Antoine Guillot.
Non, moi je dirais que les grands sujets n'interdisent pas de faire du cinéma.
Attention, alors on s'éloigne des micros parce que ça plope de tous les côtés. Vous savez que ces micros sont sensibles. Merci de respecter les consignes de sécurité. J'ai l'impression que Philippe Azoré a été spontanément combusté. Donc c'est lui qui va commencer.
Justement, j'ai pas été spontanément combusté. Ça m'a pris du temps. Non, j'explique. J'ai toujours des histoires compliquées pour entrer dans les films. J'ai juste filmé à 4.
Vous avez jusqu'à 20h, ça tombe bien.
J'ai jusqu'à 20h. Accordez-moi
seul,
jusqu'à 21h.
Seul, évidemment. Seul.
Je monologuerai sur cette histoire. Non, c'est un film que j'ai découvert une première fois à Cannes, mais alors, il faut savoir des choses, c'est qu'à Cannes, on a enlevé les projections du matin pour la presse, mais il y a quand même des petites
projections. Oula, ça y est, on est vraiment...
En secret, on est parti pour 3 heures.
On va faire plus court.
Il y a des petites projections secrètes à Cannes, le matin, pour la presse quotidienne. Il se trouve que je travaillais pour un Vanity Fair quotidien. Et j'ai vu le film dans de très mauvaises conditions. C'est-à-dire avec un son qui était à moins 3, très très mal projeté, dans une salle qui s'appelle André Bazin. Il mérite mieux Bazin que cette salle-là. Et j'ai quand même eu l'impression, quand je lisais les papiers au fur et à mesure du, enfin voilà, l'étonnement, toute la très très grande beauté que décrivait la presse autour de moi, puis le prix d'être passé à côté de ce film, avec d'autant plus de dommages que je suis un très 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 grand fan du travail précédent de Mathilde Diop, notamment du film Mille Soleils. Je suis allé revoir le film hier soir dans une salle à Paris. Et effectivement, cette fois-ci, j'ai pu goûter à quelque chose qui tient par endroit, pas toujours, mais quand même de l'hypnose. Et donc j'avais quand même besoin pour ça d'un son, d'une image à peu près correcte, d'un son poussé, d'une musique, celle de Fatima Al-Qadili, dont tout le monde me dit depuis le mois de mai que c'est magnifique, que je n'avais pas entendu pendant la première projection. Donc, quand même, on est vraiment sur un problème. J'ai vu un film comme ça.
Pas en fait, c'était pas
si, bon. Si, mais c'était un peu comme si j'étais de l'autre côté ou dans une autre pièce. Enfin, parce que j'entendais, mais vraiment, c'était, ouais, c'est un massacre. Il faut savoir ça. Quoi.
On prend de la place.
Voilà. Et j'ai vu quoi? J'ai vu l'inverse de ce que j'avais ressenti à Cannes. Alors, à Cannes, il me semblait précisément que ce qui manquait au film de Mati Diop, si on le comparait à Mille Soleils, par exemple, son précédent film, c'était le psychédélisme, qui est la chose qu'elle a toujours réussi à faire. Et je voyais à la place quelque chose qui était plus convenu, qui me semblait même par endroit procéder d'une forme de scénicisation, pour dire
pour plaire au CNC.
Oui, quelque chose qui serait passé par voilà, c'est un long métrage, c'est un premier long métrage, il y a du poids. Elle a travaillé 5 ou 6 ans sur le scénario. C'est dément que j'ai pu penser ça quand je vois le film que j'ai vu hier soir et qu'elle n'a pas retouché hein, par ailleurs. C'est le film de Cannes un peu mieux mixé je crois mais pas plus, il était en pré-mixage à Cannes. C'est-à-dire que je vois une façon de traiter, comme le disait Antoine Guillot, un très grand sujet, les migrants, qui peut être une épine dans le pied, et de le faire à sa façon. À sa façon, c'est-à-dire de façon fantomatique, tout le temps. Ça a toujours été son style à Mati Diop. Mais là, elle, on sent cette façon de vouloir, lorsqu'elle écrit une scène et qu'elle la met en place, qu'elle la met en scène, de se laisser la marge de pouvoir intervenir à l'intérieur de cette scène. Un cadrage, un son particulier, une forme de flottement. Elle arrive à un temps suspendu quasiment dans toutes les grandes scènes réussies du film. Là où ça marche pas, où il y a des baisses de régime, c'est qu'il y a des scènes qui sont un peu plus des scènes dialoguées, qui sont des scènes jouées, pour ainsi dire, plus que observées. Où là, on sent qu'elle a du mal à intervenir, où elle laisse faire, où la direction d'acteurs, les acteurs sont tous amateurs, est un peu plus flottante, et où il y a tout à coup un relâchement. C'est encore là-dessus que je suis pas sous le choc, je pense qu'il y a encore une faiblesse, mais le film m'a complètement hypnotisé hier soir. Oui.
Antoine Guillot.
Puisqu'on en est à raconter ces expériences cannoises, je me souviens surtout avoir vu ce film.
Corinne Rondeau n'était pas à Cannes, donc on va vous parler de nos expériences.
Voilà. Non, mais je me souviens d'avoir vu le film le même jour que celui de Ken Loach. Et c'est pour ça que je me faisais précisément la réflexion qu'on pouvait s'emparer de sujets très importants. C'était l'ubérisation chez Ken Loach. Ici, c'est les migrants et surtout la disparition des migrants, du corps des migrants dans la mer. Et pour autant ne pas abdiquer et de se dire qu'on va faire du cinéma. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce film déjà, c'est qu'il donne l'impression de se réinventer sans arrêt. C'est-à-dire que ça commence comme un film social, ces ouvriers qui réclament leur argent. On va partir après dans le film de migration qui devient un sous-genre du cinéma. Ils partent, et puis on part dans le film policier, dans le film d'amour fou, au-delà de la mort, dans le film de fantômes et tant d'autres encore. Ça déjà, j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'univoque qui nous dirait voilà tel est mon projet de film, il est cadré comme ça. Ensuite il se pose aussi des questions de cinéma en permanence par rapport aux lieux dans lesquels il tourne et moi j'ai eu le sentiment très agréable que la mise en scène s'inventait. Il y a certainement eu effectivement un scénario soutenu par le CNC, bien que ça soit parlé en Wolof, parce que c'est pas souvent aussi qu'on entend du Wolof dans des films financés depuis la France, etc. Mm-hmm. Donc c'est quand même un très bon point. Mm-hmm. Et d'ailleurs c'est intéressant qu'il y ait des registres, par moments ça parle en français quand sont les policiers qui sont un peu dans la langue plus officielle et la langue d'État, voilà. Mais surtout je pense à cette scène qu'on a entendue dans la bande-annonce du train qui passe au milieu de ce quartier. Ben, c'est tout bête, on choisit un quartier, il y a un train qui passe au milieu, qu'est-ce qu'on va en faire cinématographiquement? Et cette image même du cinéma, de ces wagons qui passent et qui entre les wagons laisse paraître une image d'un regard qui peut s'échanger entre un garçon et une fille, c'est quelque chose de très beau. J'aime beaucoup aussi, même si c'est, et alors pour moi les défauts du film sont plus là, c'est qu'il est parfois amoureux presque de ses trouvailles et donc les scènes de mer nocturne, comme ça, cette espèce de magma métallique inquiétant revient parfois un peu trop souvent, cette scène de soleil couchant qui est très belle une fois, quand on l'a vu une fois, deux fois, tiennent un peu parfois du procédé, mais ce sont des défauts un peu véniels pour un film qui est quand même plein de très bonnes idées et emmené par cette troupe non professionnelle en l'occurrence, que je trouve moi merveilleusement filmée, vivante, même quand elle figure des morts. Et ce qui fait que ce film très beau, très vivant, est un parfait tombeau, je dirais, puisque c'est aussi, je pense, l'ambition de ce film pour ces corps sans sépulture dont il est question au sein de l'histoire.
Corinne Rondeau, à présent sur Atlantique de Mati Diop.
Oh oui, j'entends mes camarades, mais je ne partage pas du tout leur avis. Je trouve que c'est un film qui a trop de complexité parce qu'il a à la fois deux veines, c'est-à-dire la situation des migrants, des jeunes, comme l'a dit Antoine, partent parce qu'ils ne sont pas payés. Et le film, d'ailleurs, commence quand même, il faut le dire, sur Dakar avec la construction d'un bâtiment, mais qui n'existe pas. Mmh. C'est une fiction déjà.
Une tour folle, là.
Et ça, c'est intéressant de savoir que cette construction n'est pas vraie, parce que c'est aussi le fantasme de l'Occident, à l'intérieur même de l'Afrique. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que ce film tente, pour moi, il est dans la tentative, voire la tentation, mais en même temps, elle est inaboutie, cette tentative, d'être entre l'illusion de l'Occident, parce que l'Occident est elle-même une illusion, et en même temps, il y a ce départ, parce que rien ne s'y passe, on n'est pas payé, on ne peut pas rembourser ses dettes, donc on va partir vers ces illusions-là. Et elle commence effectivement avec ce décor à Dakar, où les gens passent, et il y a une sorte de dichotomie entre la rue, les ouvriers, et ce bâtiment gigantesque qui s'érige au-dessus de la ville. Et je trouve que ce rapport-là, il est extrêmement intéressant et très beau. Et en même temps, il dit deux choses à la fois. L'Occident là-bas, mais ici aussi. Et en même temps, ces hommes de chair et d'os qui vont partir. Et à l'intérieur de ce départ vers l'illusion de l'Occident pour vivre mieux, c'est-à-dire prendre le risque de mourir pour faire ce choix-là, parce que ça devient insupportable de vivre dans son pays, parce qu'on ne peut pas assumer la vie familiale, eh bien, il y a une histoire d'amour. Donc ça fait deux fils qui, pour moi, sont tendus dans une dimension romantique, avec ces plans de mer dont vous parlez, coucher de soleil, métallique, ce rapport Roméo et Juliette, littéralement. Alors, les acteurs sont pas professionnels, mais ils sont absolument admirables, ça, je le concède. Mais je trouve que le film n'est pas tenu. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette volonté de dire « ces hommes sont morts, ils n'ont pas de sépulture », mais en même temps, leur retour, parce que c'est un film sur la hantise du retour des morts, donc c'est un film vraiment de zombies, mais romantisé. Et donc, en fait, il y a ces âmes qui reviennent et qui donnent la fièvre à celles qui sont là. Hein, les compagnes qui ont été abandonnées sont prises de fièvre. Et donc, il y a une vie qui passe, des morts. Donc, c'est les morts qui prennent soin des vivants. Et je trouve là, ça, très problématique, parce que faire un film à Dakar sur une situation qui est réelle, c'est un événement, la migration, mais aussi la situation de pauvreté, je trouve que c'est un vrai problème que de le traiter d'une manière romantique, par l'intermédiaire de cette dimension fantomatique. Moi, ça m'a profondément déplu, parce que c'est une manière romantique de venir réparer finalement cette chose terrible qui est partir parce qu'on a pas d'autre solution, mais surtout, c'est la solution de l'illusion. Alors, la seule chose qui me venait à l'esprit à l'issue du film, c'était de me dire quand est-ce qu'on arrêtera de croire aux illusions occidentales pour enfin croire qu'on peut avoir envie d'aller en Afrique. Vous voyez que la chose inverse soit possible, quoi.
Alors, pour poursuivre sur ce que vous disiez à l'instant, Corinne Rondeau, et continuer le débat, moi, c'est vrai que moi, j'ai vu, comme vous, j'imagine, au moins deux films dans ce film-là. Toute cette première partie, on va dire, réaliste, très documentée, avec ces acteurs, effectivement, que j'ai trouvé tous formidables. Et moi, je trouve que ça ne prend pas, et que le film débute vraiment quand, on va dire, que le réalisme est troublé. Mais il y a un autre trouble qui s'installe pour le spectateur que j'ai été, un peu comme à l'image de ce que vous venez de dire, je ne vais pas le répéter, Corinne Rondeau, vous l'avez très bien dit. Donc, du coup, moi je me retrouve dans une situation un peu de paradoxale, de ne pas aimer la partie que je valide, si je puis dire, et d'aimer, cinématographiquement parlant, et au point de vue de mise en scène, je trouve qu'il y a vraiment des très très belles choses, la partie qui me pose problème. Par ailleurs, je pense qu'il y a souvent des plans, mais vous l'évoquiez aussi, je crois, Philippe Azoury ou Antoine Guillot, les deux, des plans qui sont toujours, pour moi, un tout petit peu trop longs, qui se regardent un peu être des plans. Enfin, il y a quelque chose comme ça où Mati Diop a une sorte de joliesse qui me semble parfois pas toujours très bienvenue. Philippe Azoury.
Moi, ce sont ces plans-là, moi, au contraire, que j'aime bien.
Il faudrait qu'on compare.
Voilà, ceux sur lesquels elle intervient. Je comprends ce que dit Corinne. Moi, j'avais une difficulté a priori comme ça sur l'idée que le migrant devienne un zombie. J'en ai un peu assez qu'on traite les migrants comme des zombies. Je voudrais qu'on les raconte, les migrants, qu'on les fasse parler, qu'on les fasse vivre, précisément. Là où je trouve que le film s'en sort mieux que bien d'autres films sur la question et qui passe aussi par cette case-là, zombiesque ou fantomatique, c'est que la migration est racontée par ceux qui restent, par Pénélope, en fait. et même si on utilise un mythe occidental, enfin ou en tout cas qui est à la base même de l'Occident, qui est l'Iliade pour raconter Dakar aujourd'hui, ce qui est aussi peut-être une chose compliquée. Non, je trouve qu'elle arrive malgré tout à faire avec ça de la, qui sont des points à problème où je trouve que voilà, il y a des baisses de régime, il y a des choses qui ne collent pas dans les deux films. Il y a effectivement deux films avec deux tons, dont même peut-être un qui tire légèrement vers le comique, mais qui n'est pas assez assumé. Que voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne prend pas. Mais dans les moments où précisément elle va vers le plus de fantomatique, je trouve que c'est là qu'elle nous donne le plus de sensations de Dakar. C'est ce que j'avais pas senti à Cannes, c'est ce que j'ai senti hier qui m'a beaucoup plu, beaucoup troublé, me hante assez depuis hier.
Antoine Guillaume.
Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est ce mélange des genres qui fait toute la valeur du film. Au contraire, justement, parce qu'il ne va pas dans une voie univoque comme ça.
Ils sont pas si mélangés. Non, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même des plans qui ressortent ou des séquences qui ressortent d'un registre et d'autres d'un autre.
Oui.
Et que justement, le mélange.
Alors, on dirait un montage. C'est un montage des genres, peut-être plus qu'un mélange. Mais on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne s'installe pas non plus dans une position confortable de spectateur parce qu'on sait où on va et on sait dans quel registre on est. Après, je pense qu'on est moins dans le zombie que dans vraiment La Possession, c'est-à-dire que c'est un film de fantômes, de hantises, comme disait Corinne Rondeau, et qui me semble qu'il documente aussi un passage au Sénégal qui a été la fin de ces migrations de masse, parce que ce n'est plus le cas actuellement, et qui documente presque comment la rue et les jeunes ont déposé le régime du président Ouad auparavant, et comment cette mémoire, cette hantise de cette situation qui fait partir des jeunes et mourir en mer provoque une révolte sur place, parce que c'est aussi un film d'émancipation féminine, compliqué aussi dans ce qu'il montre, mais sans le faire jamais de manière littérale, il me semble qu'il nous raconte effectivement ce que peut être une jeunesse africaine aujourd'hui, ne pouvant se résoudre à ce que les escroqueries, la misère, le pouvoir, etc., force des jeunes à partir et à mourir en mer. Et pour ça, je trouve ça très beau de le raconter de cette manière très presque carpentérienne par moment.
Corinne Rondeau, à nouveau.
Non, j'entends que le désir de Mathilde Diop a été de faire parler ceux qui ont fait l'expérience, puisqu'elle a voulu que l'événement devienne quelque chose de son cinéma. Je trouve qu'il y a un échec là-dessus. Je pense que le point de départ est très objectif et pertinent, mais je trouve que la réalisation, en vous écoutant parler, messieurs, je trouvais que, à force de parler de ce mot de hantise, finalement, elle désincarne. Et je trouve que la jeunesse africaine, et on le voit dans le film quand même, ce sont des corps. Et elle leur met la fièvre. Donc ils sont en face d'éprouver quelque chose dont eux-mêmes ne savent pas ce que c'est, cette fièvre qui va les prendre, etc., etc. Et ce film est hanté par l'Occident. Il est hanté, vous l'avez dit, de Pénélope. Il est hanté par Beau Travail de Claire Denis, par exemple. Il est hanté par des tas de références cinématographiques liées à ce continent de près ou de loin. Et je trouve que là, il y a un échec. Il y a à la fois cette volonté de parler des femmes qui veulent devenir des femmes libres dans un pays où quand même on leur impose un mari. C'est aussi dans le film. Et en même temps, vous avez ces jeunes qui partent, qu'on voit très peu parce qu'ils réclament leur paye qu'on ne voit pas. Et en deux temps, trois mouvements, ils ont disparu. Ils ont disparu. Et après,
film,
on a la police qui va faire son enquête sur « Ah, mais on l'a vu, il est arrivé, on a revu ». Donc, suspense à l'intérieur d'une histoire de mariage forcé, d'amour de Roméo et Juliette.
De police
corrompue.
Et Roméo
et Juliette, c'est quand même l'idée d'un amour transcendant. C'est-à-dire qu'on s'aime par-dessus les corps et par-dessus le temps et l'espace. Moi, j'ai l'impression que si on veut faire un film sur l'Afrique, il faut être un peu plus les pieds dans la terre. Et cette scène où elle fait creuser un type à la pelle, qui est un entrepreneur, je pense qu'elle aurait pu en faire autre chose, parce qu'elle avait les pieds dans la terre, elle avait la pelle dans la terre, et qu'il y avait ces femmes autour, elle aurait pu en faire autre chose. Et pour moi, tout est à moitié fait.
Bon, allez voir complètement et en entier le film de Mathilde Diop, Atlantique, pour vous faire votre propre avis. Puis pour en savoir plus, vous pouvez réécouter Mathilde Diop, qui est déjà intervenue par deux fois sur notre antenne dans les matins. C'était le 2 octobre, dans la Grande Table, le 30 septembre. Des entretiens, évidemment, à réécouter ou podcaster sur le site de France Culture. À suivre dans cette émission, Alice et le maire, Eisenstein, et on parlera aussi de Luis Ospina.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Alice et le maire de Nicolas Parisère, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Ce film a lui aussi reçu un bon accueil sur la croisette. On va y suivre dans ce film une jeune normalienne, incarnée par Anaïs de Moustier, qui est embauchée à la mairie de Lyon pour redonner au maire, Fabrice Lucchini, une stimulation intellectuelle, on va dire ça comme ça, qui semble l'avoir désertée.
Vous connaissez mon parcours ?
Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon.
Ils ont payé le prix.
Le maire, il va bien.
Quoi ?
Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour.
Non. Non. Oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ?
Alice Eman.
Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser.
Je vais être brusque.
Allez-y.
Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression.
Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend.
Non, non, on ne nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites que il remplace et il annule l'autre discours. Ok ?
Ok.
Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie.
Un scandale ?
Il y a même une pétition qui circule.
Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes, ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Eman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes.
L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous voir arrêter de penser, c'est ça ? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice.
Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie.
Alice et le maire, premières impressions, Philippe Azoury.
Gérard Collomb, 2022.
Antoine
Génération
Guillaume.
Gérard Collomb.
Antoine Guillaume.
Un film sérieux, mais drôle et mais inquiétant.
Corinne Rondeau.
Fatigant.
Bon. Antoine Guillaume, tiens, va commencer.
Alors, j'ai eu un peu peur en allant voir ce film, pour des raisons de casting d'abord, et de début de film comme ça. On s'est dit, ah bon, Fabrice Lucchini en Gérard Collomb, effectivement, ça fait un peu peur comme projet. Bon,
c'est pas un décalque, hein, c'est pas un biopic sur Gérard Collomb, il faut quand même préciser. Non, mais voilà, maire de Lyon, il est socialiste, mais les différences sont notables.
Précisément, mais c'est l'idée voilà. Qu'on peut s'en faire, a priori.
Ouais, je savais pas que c'était le maire
en arrivant,
Lyon.
C'est.
Non, donc.
Oui, mais enfin, qu'on voit qu'on est à Lyon, qu'il va y avoir un maire, etc. Bref,
ah oui, mais ça, c'est quand on est dans la salle, ça.
Je vous raconte mes premières impressions.
Ah oui, vraiment,
film,
d'accord, ok.
En début de film, après.
D'accord. Vous avez pris du popcorn ou comment ça s'est passé?
Je vois arriver Nora Hamzaoui en attaché de presse un peu fantasque et speed. Alors, je me dis, oh là là, encore une satire de la vie politique où on va montrer qu'ils sont tous nuls et que tout ça est une grande farce, etc. Le sujet, c'est pas du tout ça. Donc, c'est la première chose, moi, qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est que ça prend au sérieux son sujet. Dans un moment où, généralement, les politiques sont montrés soit comme des guignols, soit comme des crapules, ça prend au sérieux la fonction d'un homme politique et sa difficulté à faire son métier actuellement. Et on l'entend ici, c'est l'histoire de la défaite de la pensée, de l'impossibilité de penser dans un monde qui va très vite et où on doit en permanence produire la bonne phrase qui va gommer le fait qu'on ne fait rien. Et ce qui occupe beaucoup. Donc c'était déjà une très bonne surprise. Ensuite, on voit assez vite que, alors j'ai vu après que Nicolas Parisère avait eu Éric Rohmer comme professeur, donc ça m'étonne pas trop. Mais on voit le projet assez romérien en référence à l'Arbre, le Maire et la médiathèque, où Lucchini jouait un petit rôle d'instituteur, hein, si je me souviens bien, c'était pas lui le maire, c'était Pascal Grégory, mais ça va être voilà l'aventure du langage, c'est-à-dire faire un film dont l'action ce soit le langage en permanence, dont l'enjeu ce soit le langage aussi, il va falloir écrire ce grand discours à la fin et qui est mené entièrement par ça. Alors la mise en scène de ce fait est assez discrète, filme ça le langage jusqu'à ce moment puisque c'est vraiment le but du film où il va falloir écrire le discours et là tout d'un coup la mise en scène en fait quelque chose de très organique. C'est un long plan séquence où il va se passer, parce qu'on va mettre une jeune fille avec un homme plus âgé, alors là pareil on se dit oulala, qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être l'histoire de la séduction de l'une par l'autre ou de l'un par l'une, ou de prise de pouvoir, etc. Et c'est au moment où s'écrit ce discours que se jouent des enjeux presque physiques d'attraction entre eux qui ne vont pas forcément là où on penserait, puisque l'enjeu reste toujours le langage, et pour ça je trouve ça assez passionnant à suivre.
Corinne Rondeau sur Alice et le maire.
Écoutez, Non, je trouve que ce film, et voilà, Antoine en fait le dit, mais c'est un symptôme, quoi. C'est un film qui prend au sérieux la fonction politique. On s'en fout, on fait du cinéma, quoi. Donc, à un moment donné, on a envie de dire, bon, ce film n'a pas d'image, ce film ne fait que parler. Alors, par chance, on a quand même des acteurs qui se tiennent. Et Anaïs de Moustier est formidable, elle aimante, vraiment. Je trouve qu'elle a un visage qui est à la fois un masque et quelque chose de très vivant. Derrière ça, enfin non, elle tient, et heureusement qu'elle est là, parce que bon, Lucchini qui n'en fait pas des caisses, c'est aussi bien, mais je dirais c'est un film qui n'a pas de libido, c'est un film post-Nouvelle Vague qui n'arrête pas de parler sur la fonction de ce que, oui alors tu vois comment on parle de Pasolini aujourd'hui, c'est réac, on a envie de dire, mais c'est le film qui est réac et nostalgique, parce que faire un film sur l'idée qu'on n'a pas d'idée, parce que quand même le film commence avec Lucchini qui dit j'ai plus d'idée, hein. J'avais dit, je veux dire, déjà avoir une idée, non mais faut s'asseoir un petit peu, quoi, hein. Je veux dire, c'est juste qu'il a pas de libido, ce film est plat, je veux dire, il y a pas d'énergie, il y a rien du tout, et donc c'est un problème intergénérationnel entre la projection qu'on a du politique, alors avec une vision tout à fait délirante en termes d'idéalisme, là, genre, il y a un type qui voudrait avoir des idées, bah oui, mais c'était avant les idées, que c'était comme le pétrole, vous vous rappelez? Ici, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bah, le film, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, grosso modo, bah, il n'y a plus de pétrole, mais il n'y a plus d'idées non plus. Autrement dit, aller chercher des acteurs pour faire tenir ça, bah, heureusement qu'il y a un peu des acteurs, oui, on va dire, et heureusement qu'il y a ce plan séquence, peut-être, allez, Antoine, allez, je suis d'accord avec vous, mais j'étais fatiguée, quoi. J'étais fatiguée par cette absence. Je veux dire, la Nouvelle Vague, je veux dire, ça tchatche, mais il y a de l'impertinence tout le temps. Je veux dire, aujourd'hui, faire des discours comme ça, ça ne veut rien dire. L'idée d'aller chercher quelqu'un qui pense parce qu'il fait de la philo pour réveiller un maire, mais où on est? Alors évidemment, le film est en train d'éviter l'écueil de, ouais, c'est un mec de pouvoir, il va mettre la jeune fille dans son pieu parce que comme elle est jeune et que les philosophes, pour voir si elle est tentée, la philosophie par le politique. Bon, ben ouais, mais non. Ben à la limite, je me dis, ben alors, tant pis alors.
Ne divulgageons pas tout, ma chère Corinne Rondeau.
Ah, parce que...
Laissons le doute planer.
Oh, yeah, oui.
Oui, vous rappelez de cette scène. 30 petits points.
Bien sûr.
Allez, Philippe Azoré sur Alice et le maire.
C'est vrai.
Oh, je dirais que le film a le même à la fois point d'intérêt et le même problème esthétique que le précédent film de Nicolas Pariser qui s'appelait Le Grand Jeu, si je ne dis pas de bêtises, qui brodait une fiction autour, mais un peu loin de la communauté de Tarnac. C'est-à-dire que Pariser, qui est quelqu'un qui est né, je crois, en 74, donc il doit avoir aux entours de 45 ans, se pose la question de où nous en sommes, enfin, nous, les enfants de la gauche du pouvoir, héritiers, enfin, voilà, ceux et celles qui ont grandi avec Mitterrand et qui se retrouvent aujourd'hui face, effectivement, à une gauche qui a plus beaucoup d'idées, qui est plus beaucoup au pouvoir non plus, il faut bien quand même se l'avouer, et qui cherche un peu partout. Alors, effectivement, qui trouve là dans le film une porte de sortie ou une forme de réponse telle que Mitterrand ait pu le faire au début des années 80, c'est-à-dire d'aller demander, bon, à l'époque c'était à Foucault, à Baudrillard et je sais plus qui encore, de venir de temps en temps, voilà, un peu dire où on en était. Là, c'est cette jeune fille que joue Anaïs de Moustier. Ça prend, voilà, ça prend ce que ça prend. Plutôt intelligemment, à mon sens. Enfin, le film ne m'est absolument pas désagréable, mais il désarçonne complètement l'idée que l'on se fait depuis toujours, enfin en tout cas depuis les années 60-70, de ce que serait un cinéma politique. Parce que je pense que la question, enfin voilà, la question de Pariser, elle reste quand même de où on en est du politique, où on en est de la gauche, qu'on soit de gauche ou pas. Enfin voilà, où on en est tout ça. Et ce qu'on a su du cinéma politique, qu'il soit militant ou qu'il soit dans la déconstruction pure, tendance Strobuyer ou JLG, là on est complètement déstabilisé ou désarçonné par ça, parce qu'on a un film qui travaille, comme déjà le premier, hein, comme celui sur comme Le Grand Jeu sur Tarnac, qui travaille dans une totale invisibilité, jusqu'à ce long plan séquence, mais qui vient un peu tard. Et cette invisibilité, moi, spontanément, elle me gêne. Enfin, j'aimerais que le film y soit aussi dans l'idée, dans la radicalité, dans l'invention, dans le surgissement d'une forme spontanée, inédite, qui effectivement nous excite, nous donne une libido, et non seulement de la libido et des idées de la libido. Mais non, il y a cette invisibilité, un peu terne, comme ça, un peu télé, et qui me trouble malgré tout. Parce que le film marche un peu sur moi. En tout cas, je le vois sans déplaisir, et je me dis qu'il y a j'arrive pas à savoir si Pariser donne une fonction à cette invisibilité, qui marcherait d'ailleurs, c'est-à-dire de faire passer des idées plutôt un film vraiment pas con, très intelligent, même par moment, et dans un format heure de grande écoute, ou en tout cas un public, et j'ai l'impression que le film trouve un public, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et j'arrive pas à savoir si c'est donc une stratégie très très maligne, enfin voilà, d'arriver à pouvoir parler au plus grand nombre de questions qui sont plutôt des questions de l'ordre de la philosophie ou d'une couche de la société plutôt intellectuelle, ou alors si on est dans une forme de renoncement. Et si on est dans une forme de renoncement, ça me gêne un peu plus. Je suis tiraillé par ce film depuis Cannes.
Voilà. Bon,
je vous parle depuis Cannes.
Vous m'entendez ?
Non, mais c'est une vieille stratégie du gauchisme, c'est de l'entrisme. Moi, je pense que c'est quand même. Enfin, je connais pas Nicolas Parisère, donc moi, je fais ce crédit-là, parce qu'effectivement, je me dis que ça ressemble quand même à des productions très normées, grand public, françaises, en effet, avec pas mal de télévision là-dedans, mais...
C'est quelqu'un, Parisère, pour l'avoir juste croisé une fois ou deux, qui connaît très très bien le cinéma, l'histoire du cinéma.
C'est de l'entrisme.
Ce que faisait Garrel en 74, enfin, c'est des choses qui sait très très bien. Il est très très...
Alors, il connaît le cinéma, mais aussi il connaît le théâtre, parce que moi j'ai noté quand même beaucoup d'acteurs et d'actrices qui viennent du monde du théâtre et qui ne sont pas les plus mauvais. C'est Pascal Reineric, qui est très bien. Alexandre Steiger, Maud Weiler, Antoine Reinhardt, bon, qui joue à peu près dans tous les films français maintenant. Et Léonie Simaga, qui est la directrice de cabinet du maire de Lyon. Et qui a toute la libido du film dans son rôle, et je trouvais formidable Léonie Simaga, parce que c'est elle qui porte tout le désir, hein,
à
cause des chaussures peut-être, mais une façon d'incarner ce rôle que j'ai trouvé très beau. Mais après, à force de se prendre au sérieux, parfois c'est un peu trop, c'est-à-dire qu'il y a un problème quand même d'écriture de certains dialogues qui, même avec la qualité à laquelle j'adhère d'Anis de Moustier et de Fabrice Lucchini, il y a quand même des dialogues qui rappent un peu et qui ont du mal à être perçus comme une conversation que nous pourrions avoir, vous et moi, par exemple, Antoine Guillaume, dans les couloirs de France Culture.
Oui, mais ça, pourquoi pas, que ce soit antinaturaliste pour ça. Le problème, c'est quand ça verse dans le didactisme, ça qui est un peu l'écueil possible.
Des scènes drôles, hein. Thomas Chabrol.
Mais c'est quand même un film, assez drôle. Et par exemple, vous prenez le personnage du gourou de Thomas Chabrol, on pourrait penser que le film va vers le dévoilement, la chute de ce genre de grand marionnettiste. Il est évacué assez vite, en fait. Il y a beaucoup de fausses pistes aussi que j'aime assez qu'elle n'y soit pas. Et moi, je rebondis sur la question du pas de libido. Il me semble que le film précisément ça, quel que soit l'âge des personnages, hormis effectivement les gens qui gravitent autour et qui ont vraiment le goût du pouvoir et veulent se servir de tout ça. C'est-à-dire qu'à une extrémité, il y a le vieux maire qui le j'ai pas d'idée, c'est j'ai pas d'envie.
Mais qui pense plus, quoi.
J'ai plus envie de me battre avec. D'ailleurs, c'est presque un film d'époque parce que c'est combat interne au Parti socialiste pour savoir qui est le président, etc. C'est une époque où le PS pouvait encore espérer présenter un candidat aux élections présidentielle. Et puis, à ce côté, cette jeune fille comprend pour une philosophe, parce que c'est juste une étudiante en philosophie, c'est dire aussi la perte totale de... Il n'y a plus ces Foucault.
Il n'y a plus Baudrillard, qui est allé en
visiteur du soir chez Mitterrand, mais qui elle-même n'a pas de désir. On lui demande qu'est-ce que vous voulez faire, mais je ne sais pas. Et je trouve que cette atonie générale, qui est quand même assez bien vue sur un état du monde contemporain, est très bien saisi.
Oui, sur les constats, moi je trouve le film en effet.
C'est pour ça que je dis que le film est assez inquiétant et désespérant, parce que sous le côté on rit avec tout ça et puis on prend au sérieux, mais en même temps ça fait un état quand même de vide, vide assez général.
Qui est assez un reflet de l'état actuel.
Bah, précisément, je trouve qu'il est en cela très très contemporain.
Oui. Corinne Rondeau.
Oui, mais c'est pas parce que ça se dit, et là je rejoins vraiment Philippe, quoi. On sait pas si ce que veut dire, à quoi tend ce film, c'est-à-dire le renoncement ou alors le constat, tout simplement, de on en est là, et puis après peut-être que, mais moi j'ai eu la sensation vraiment d'une sorte d'effondrement total.
Oui, mais ça peut être aussi comme un témoignage du temps présent.
Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, ne rien en faire cinématographiquement, c'est quand même très triste. Je dirais que oui, c'est grande écoute, c'est à plein, c'est voilà, on en est là, et les gens, bah, ils pensent quand même, ils ont envie d'y parler, ils ont envie de faire bouger, ils ont à des moments des gens qui les soutiennent pour aller jusqu'au bout. Je veux dire, je peux pas.
Un dernier mot, Philippe Azoré.
Ouais, il n'est pas impossible que le grand sujet de Nicolas Parisère, ce soit l'impasse. passe du PS, un passe de notre génération.
Oui, mais ça serait bien de l'affirmer. Oui, ce film n'affirme rien, c'est ça qui est problématique. Chose, oui. À la fin, on a quand même la sensation que bonjour papa, bonjour, bonjour ma fille, enfin, je veux dire, c'est plus possible, quoi.
Oui,
c'est
ça, la famille, c'est très premier degré jusqu'à.
Oui, bah, moi, j'ai envie qu'il y ait du Victor Hugo, vous voyez. Qui sont les Thénardier.
Même le film, ou d'un manque de désir, mais également de l'impasse dans laquelle l'époque se trouve, que ce soit du niveau des politiques, des dirigeants, ou de ce qu'ont été les jeunes militants d'autrefois.
Allez voir par vous-même. Faites-vous votre idée en allant voir Alice et le maire de Nicolas Parizère.
Pero abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor.
On vient d'entendre un éclat comme ça d'un film de Luis Ospina, qui s'appelle Pura Sangre. Luis Ospina, dont on a appris la disparition il y a une semaine, et donc Philippe Azoury avait fort justement envie de lui rendre hommage.
Oui, exactement, on l'a appris vendredi soir dernier, autour de 22h, la disparition à 70 ans de Luis Ospina. J'ai envie de lui rendre hommage parce que, même autour de moi, enfin voilà, le nom de Luis Ospina n'évoque pas grand-chose en France, chez les cinéphiles, même parmi les cinéphiles les plus sérieux. Ce qui veut dire qu'il y a encore du travail pour faire venir, enfin, il y a encore des choses à découvrir.
Oui.
C'est la bonne nouvelle.
Oui, non, c'est la bonne nouvelle.
Ce qui se cache derrière la triste nouvelle, c'est qu'il y a, ouais. y a encore, oui, c'est pas fini, il y a encore des pans entiers de cinématographie qui révèlent des chefs-d'œuvre. Et Ospina, c'est dommage, mais peut-être que sa disparition, peut-être que ce billet, je sais pas, fera venir en France la rétro qui était par exemple, c'était à Doc Lisboa l'an dernier, qu'Agnès Wildenstein l'avait montré, et on avait découvert, c'était cette année ou il y a deux ans, je sais plus. Enfin, moi j'ai découvert quelque chose qui est une énergie qui me manque précisément dans le cinéma contemporain, celle de ce qu'on appelait le groupe de Cali. Le groupe de Cali, c'est pas simplement Luis Ospina, c'est un écrivain incroyable qui s'appelait Andrés Caicedo. Un seul roman, il s'est suicidé le jour de la parution du roman, donc évidemment ça coupe. Il s'appelait Que Viva la Musica, que Belfond avait traduit, je crois, il y a 4 ou 5 ans, un des plus beaux romans jamais écrits. Carlos Maiolo, Fernel Franco, qui est un photographe incroyable. Mmh. C'est toute cette énergie-là qui gravite autour du cinéma, de la littérature, de la musique, de la poésie, mais tout simplement autour de la vie. Ces gens-là étaient des punks. C'est-à-dire que quand on regarde la filmographie de Luis Ospina, c'est 9 ou 10 documentaires, c'est 2 fictions, et ces fictions-là, elles ne sont pas du tout réalistes, il va vers le cinéma de genre, mais au milieu de ça, on retrouve toujours 3-4 points comme ça qui l'obsèdent, la ville, et la ville c'est les quartiers sombres de la ville, la mémoire, et l'énergie avec laquelle on pourrait combiner... Je sais pas, par exemple, dans Pour Assangrer, quand on regarde Pour Assangrer, c'est un film de 82, mais on pense à quoi? On pense à The Hunger, le film, mais qui vient 2 ou 3 ans plus tard, qui est le film avec Catherine Deneuve et David Bowie, où joue des vampires.
Tony Scott.
Ouais, voilà, de Tony Scott. Ça pourrait être The Hunger, mais The Hunger remixé par Roberto Bolaño. C'est The Hunger remixé par Roberto Bolaño, avec au milieu de ça un peu de Dario Argento, beaucoup de cocaïne, beaucoup de sexe, et une envie d'en rire tout le temps. C'est quelqu'un qui peut aussi s'énerver, mais toujours aussi avec un, j'allais dire cynisme, mais cynisme c'est négatif, avec chose d'un peu plus, avec beaucoup d'ironie.
Ironie.
Voilà, c'est l'ironie que je cherchais. Contre ce qu'on a appelé ce qu'il a dénoncé comme étant la Polno Miseria de la Colombie, c'est-à-dire une façon de représenter la Colombie toujours sur le négatif. Lui a eu envie de tirer ça vers quelque chose de beaucoup plus énergique, de symbolide. Enfin, voilà, tout le groupe de Cali, dont Luis Ospina était vraiment le dernier survivant, c'est un bolide. La chance pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Luis Ospina, c'est qu'une partie entière de son œuvre est disponible sous-titré en anglais sur Vimeo, donc je pense qu'on mettra les liens non seulement de Pula Sangre, mais ça vous amènera vers tout le reste sur la page de la dispute, c'est ça ?
Absolument, c'est comme ça qu'on dit. Voilà.
Et ceux qui voudront encore aller un peu plus loin, il y a une interview qui est sortie du coup samedi dans une revue de Colombie qui s'appelle en ligne, qui s'appelle La Vista Arcadia, qui est magnifique, avec Pedro Adrián Zuluaga, qui est un des grands critiques colombiens, un entretien inédit de 2016 où il reprend tous les années de sa jeunesse, toute l'énergie avec Andrés Caicedo. Enfin, c'est voilà. Luis Ospina est mort, il nous manque, même si on ne le connaît jusqu'au trauma ici en France.
Bah justement, alors avis aux programmateurs de festivals, ouais, d'autres vraiment. Rétrospectives, de cinémathèques, de programmer des films de Luis Ospina.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Avant d'attaquer ce troisième sujet, j'ai oublié de dire tout à l'heure que Nicolas Parizère, il était aussi l'invité de Marie Richeux il y a quelques jours, c'était le 30 septembre, et que là aussi, on peut écouter, peut-être qu'il y aura la réponse aux questions qu'on se pose dans l'entretien avec Marie Richeux. Quatrième sujet de cette dispute cinéma, que ce n'est pas un film, c'est une exposition que moi je n'ai pas encore vue. J'étais à Metz il y a 3 semaines, mais l'exposition n'était pas encore montée au Centre Pompidou-Metz, l'œil extatique, Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts. Les commissaires en sont Ada Ackermann et Philippe Alain Michaud.
По древнему нашему чину венчается царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич и нарекается боговенчанным царем московским и всея великая Руси самодержцем.
L'exposition s'appelle L'œil extatique, et c'est l'œil extatique toujours de Corinne Rondeau qui nous, peut-être, nous donne le parcours de cette exposition. Comment est-elle fichue
cette exposition? Alors on entre, on a une série de 3 écrans qui sont en ligne horizontale, 1, 2, 3, n'est-ce pas, et qui ont une durée chacune très différente, qui fait qu'en fait, comme c'est un circuit fermé, où les montages, voilà, ils sont en boucle, mais en fait c'est désynchronisé.
Décalé, bien sûr.
Donc c'est formidable, puisqu'en fait c'est là aussi que se joue la juxtaposition, le rapport des formes chez Einstein. On a des portraits d'Einstein et on a des reflets de ces images sur les photos qui sont faites de Gertrude Krull, de Max Manray, de Molinage. Donc on a une série comme ça, même Marthe. Margaret.
Vous avez retrouvé son nom dans vos.
Non, mais Bourke White, il est en train de se faire raser sur une vue de Manhattan. On a ce moment-là, et puis tout est mis en cimaise sur des tubulaires comme un échafaudage. Et cette première partie, en fait, elle montre à la fois le cinématisme de Eisenstein, c'est-à-dire la représentation du mouvement, de la temporalité, avec ses boucles de ces 3 écrans qui n'arrêtent pas de se mettre à l'envers les uns les autres, ouais. Puisqu'en fait, on n'est jamais au bon moment. Puisqu'on est toujours au bon moment de ce qui se passe à l'écran. Et puis c'est aussi l'homme des visages, c'est lui-même dans ses reflets, c'est aussi l'échafaudage, puisque bon, il y a quelque chose de l'architecture et de ce cinéma qui est à la fois horizontal au départ mais aussi vertical. Et à partir de là, on va avoir un circuit chronologique, et au centre, on va dire que l'exposition est comme un cercle, même si elle est dans un triangle, mais c'est comme vous faites le tour de la cinématographie de Eisenstein avec le journal de Glumov de 23, c'est un travail qu'il fait pour dans le cadre d'une représentation théâtrale, parce qu'il commence avec Meyerhold, il est très près du constructivisme russe, avec Rodchenko, donc il a un rapport tout de suite, je dirais, au corps, Meyerhold, la gymnastique, etc. Donc il y a la première salle comme ça, qui montre ce premier film avec Fantomas, et des affiches de Fantomas, puisqu'en fait l'exposition c'est quoi? C'est comment en fait déstratifier tout ce que Eisenstein, toute sa vie, a stratifié de représentation, de l'histoire de l'art, de son rapport à l'art, puisqu'il a écrit beaucoup sur l'histoire de l'art, sans être un historien lui-même. Et donc, en fait, toute l'exposition, chaque salle, après le journal de Glumov, ça fait 5 minutes, vous avez donc La Grève, Le Cuirassé Potemkin, Octobre, La Ligne Générale, Qui Vive à Mexico, Le Pré de Beijing, c'est un film qui a disparu, mais on a quelques photographies qui sont assez admirables, et l'histoire est terrible. Donc, il faut aller rien que pour ça, voir ça. Et vous avez Alexandre Nevsky et Ivan le Terrible. Donc, vous avez vraiment le circuit. Et au centre, il y a le projet inabouti de 26. Lorsqu'il va à Berlin et qu'il rencontre ses homologues ou qui sont en train de faire du théâtre, il vient pour une projection du Cuirassier Potemkin. Et donc là, il a un projet avec la nouvelle architecture moderniste qui est de verre. Et il a le projet de faire un film avec une tour de verre pour reposer la critique du capitalisme qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que le dedans ? Comment on vit à l'intérieur ? Est-ce que le capitalisme, c'est pas l'isolement ? Est-ce que le capitalisme, c'est pas la détresse ? Et comment en fait mettre en scène une grande architecture où tout serait dedans et dehors à la fois. Et donc là, vous avez une tour que vous allez escalader. Et au-dessus de ça, vous avez des tas de projections, parce que chaque salle est faite avec les héritages de l'histoire de l'art. Vous avez du Michel-Ange, du Tintoret, du Gréco, vous avez du Jacques Callot. Donc en fait, vous avez un déploiement. Alors, je dirais que commissariat extrêmement scrupuleux, très maniaque, mais sans extase. Par contre, un déploiement nickel. Je veux dire, pas une erreur du début jusqu'à la fin.
C'est déjà pas mal.
Voilà. Et donc, vous avez un vrai jeu qui se joue sur la scénographie avec les représentations, les projections, les impressions, les juxtapositions, l'horizontalité, la verticalité. Donc, il y a les formes fondamentales de Eisenstein à l'exposition.
Je reviendrai vers vous, Corinne Rondeau. Philippe Azoury.
Corinne Rondeau vient de
après cette magnifique visite.
Elle vient de me piquer ma punchline. Parce qu'on nous a pas demandé.
Votre trait d'esprit, vous voulez dire.
Votre trait d'esprit qui était, elle est où l'extase? Alors, parce que je suis exactement, enfin, vraiment, mot pour mot d'accord avec Corinne, c'est-à-dire que le commissariat est scrupuleux, scientifique, globalement impeccable. Et il me manque à l'intérieur de la circulation de cette exposition, exactement ce que j'aime chez Eisenstein, c'est-à-dire cette force éjaculatoire absolument incroyable. On parlait d'idées, d'excitation. Enfin, quelqu'un qui a écrit autant toute la journée, tout en filmant autant, tout en dessinant autant, tout en produisant autant, tout en montant autant, tout en essayant continuellement qu'il y ait des entrechocs permanents et dans son cerveau et dans le corps et dans sa vision et dans ce qu'il produisait, était quelqu'un qui était surexcité en permanence. On connaît un cabinet entier de dessins érotiques d'Eisenstein qui disent encore plus que cette exposition sur ce qu'il était vraiment. Ils n'y sont pas, je ne sais pas pourquoi, ou il y en a un ou deux dans un coin sur Mexico. Il me manque cette même nervosité dans l'entrechoc des montages que censé produire l'exposition. Moi, je n'y vois que des séries d'accrochages. Le montage, il est ni interdit, ni convoqué. Il ne fonctionne pas. C'est quelque chose d'assez troublant pour moi parce que j'aime énormément revoir des extraits, même des extraits de films que je connais par cœur, parce que je retrouve toujours quelque chose de nouveau. Là, c'est un peu Eisenstein pour les nuls sur les extraits. Ce sont toutes les scènes que l'on connaissait. Pourquoi? C'est bizarre. On va au MoMA. Au MoMA, il y a une salle depuis des mois sur Que Viva Mexico. La salle elle-même vous donne envie de rebouffer Eisenstein entièrement, ce que ne provoque pas cette exposition qui en même temps est inattaquable. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que tout de Utamaro à Goya, tout est là et il manque le fait que Eisenstein ne citait pas, Eisenstein ne reprenait pas, Eisenstein débordait. Et Eisenstein ne servait finalement à personne, ou ne se servait même... Oui, il reprenait l'iconographie religieuse. Alors, ça nous évite de parler trop du communisme. Non, en fait, il déborde et le religieux et le communisme. Et c'est ce débordement permanent d'Eisenstein que j'adore et qui fait que c'est quelqu'un d'essentiel chez moi, enfin dans ma cinéphilie, que je ne retrouve pas là. Je retrouve Eisenstein un peu dompté, voire castré, quoi. Voilà.
Bon, il y a vraiment un problème de libido ce soir.
Ouais, ça. Faut juste ajouter qu'en continu, dans la salle, dans l'auditorium, il y a tous les films d'Eisenstein. Pardon, Antoine, vous alliez le dire, je suis sûr.
Non, mais c'est
possible. Il faut le dire.
Pour avoir ces chocs-là, il faut revoir les films.
Oui, mais montrer, c'est beau de montrer un extrait. Enfin, on revoit des choses.
Mais je crois que c'est ce que veut provoquer la salle qui est au début de ces trois, parce que là, pour le coup, c'est montré en très grand et on peut s'attarder devant et par laquelle on sort également. C'est-à-dire que c'est en se disant, vous aurez peut-être appris quelque chose pendant l'exposition et vous verrez ça autrement. C'est évidemment une exposition qui est très didactique. C'est pas une exposition cinématographique, c'est une exposition d'histoire du cinéma et d'histoire des arts très sérieuse qui vient aux sources puisque Ada Kerman travaille sur elle a accès aux sources directes du fonds Eisenstein. Elle sait comment c'était accroché chez lui, donc elle va dire voilà, il avait ça dans sa collection et voilà comment c'était accroché chez lui. Donc tout ça est très instructif. Ça vise aussi, je pense, à un public qui ne connaît pas les films Eisenstein, parce que ces scènes sont des parcours obligés.
La quasi-totalité du public,
mais oui,
parce que là,
et qui non seulement
entre cinéphiles,
ne les connaît pas, mais ne les a jamais vus, sur grand écran.
Mais bien sûr.
Moi, c'est ce que je trouve de plus fort dedans et de plus Eisensteinien peut-être, ce sont ces images qui débordent par moment, avec cette tour centrale, avec des effets de reflets qui vont les projeter sur les murs, avec cette idée qu'avait Eisenstein qu'il faut que le cinéma sorte de l'écran. Il y avait des tas de recherches, de projets pour ça, et avec cette idée assez théorique et qu'effectivement on ne ressent pas complètement, de montage dans l'espace qui est faite par ce projet de la Glass House qui lui permettait aussi de, on voit les dessins qu'il avait prévus, de faire du montage qui s'entrechoque dans l'espace de plusieurs actions simultanées. Or, l'accrochage qui se voudrait Eisensteinien sur le montage des attractions, etc., n'est pas du tout sur la collision d'images antinomiques qui produirait quelque chose de plus. C'est plus l'idée à la Malraux, c'est-à-dire on va mettre à côté des choses qui peuvent aller ensemble parce qu'il y aurait une continuité analogique, alors qui est souvent attestée dans les recherches d'Ada Kerman, mais qui produit rien de plus.
Pas de jouissance pour le spectateur.
Tiens, effectivement, il peut filmer les corps comme une statue extatique de Michel-Ange parce qu'il est, il y a un homoérotisme chez lui. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne produit pas, hormis l'information qui est intéressante pour encore une fois pour des gens qui découvriraient l'univers d'Eisenstein, on ne produit pas quelque chose de plus, des fulgurances un peu comme peut avoir Dominique Paigny quand il fait la même chose, mais où lui, en mettant des choses qui a priori sont complètement hétérodoxes du point de vue scientifique, vous provoque comme ça une extase si ce n'est si ce n'est orgasmique au moins de la pensée en se disant ah oui, il se joue quelque chose là.
Justement,
et là c'est un peu scolaire et un peu trop scientifique. Les qualités de l'exposition se retournent parfois contre elle.
Mais justement, pas Antoine, vous citiez Dominique Paigny qui avait eu l'idée de cette exposition il y a quand même une dizaine d'années. On retrouve à la toute fin de l'expo, dans la dernière salle, la passion qu'avait Eisenstein pour Disney, autour duquel il a formulé le concept de plasmaticité. C'est vraiment d'une forme qui ne cesse de se réformer, de se révolutionner, de muter, et qu'avait dans un extrait de Disney. Je pense que c'est par ça, littéralement, qu'ils auraient dû commencer l'expo. C'est pas la terminer dans un coin quand les gens sont claqués, n'en peuvent plus. Au lieu de commencer par ce montage aurait dû être central, peut-être ailleurs, et commencer librement avant il faut, effectivement, on a du mal à échapper à la chronologie chez Eisenstein parce que c'est la grande histoire du XXe siècle qui est racontée. Mais je pense qu'il y avait un moyen d'abord de casser ça en le prenant d'abord pour le théoricien aventureux, génial et même finalement presque farfelu, enfin qu'il a pu être.
C'est une rando là-dessus.
Non, mais je pense qu'ils auraient pu éviter la chronologie. Il y a des choses qui sont... Non, mais je pense qu'il y a un enjeu chez eux. Ils l'ont dit lorsqu'ils ont présenté l'exposition. Ils ont dit la jeune génération a oublié Eisenstein. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met les films et on montre que cette chose énorme qui est l'œuvre de Eisenstein, parce que moi, j'ai le même rapport que Philippe à Eisenstein. C'est-à-dire que, bon, moi, ça me bat, ça me met dans tous les sens, j'ai les yeux comme ça, et l'extase, c'est-à-dire sortir de soi, j'y suis chaque fois. Je montre la grève à mes étudiants chaque année, parce que je comprends que ce soit important. Mais quand on est quand on a une attention sur le cinéma d'Eisenstein, on voit que, par exemple, dans le portrait, dans le journal Glomov, il y a tous les portraits des hommes grimés. Et bien, dans la grève, il y a tous les espions qui sont grimés. Il y aurait eu ces enjeux comme ça, de reprise, dans des séries, en faisant tourner des formes, et la manière dont ça bouge, c'est génial, parce que quand même Eisenstein, sa question, c'était comment un fait historique devient une œuvre d'art. C'est-à-dire, la transformation, la métamorphose, que de ce soit le cinématisme ou la plasticité, elle se joue à cet endroit-là. Donc, moi, à mon avis, c'était plus compliqué peut-être d'être dans la transversalité, mais voilà, c'est trop propre et trop clinique, j'en conviens, mais peut-être qu'il y a des enjeux
éducatifs. Parce que vous écoutez, moi, n'ayant pas vu l'exposition, encore une fois, j'ai envie quand même de féliciter le Centre Pompidou-Metz.
Non, mais surtout qu'il y a trois expos géniales.
Exposition, oui, en plus. Ouais. On n'est pas à la Cinémathèque française, alors ce ne sont pas aussi les mêmes publics qui sont sans doute attendus au Centre Pompidou-Metz. Et s'il y a effectivement la possibilité de voir en plus les films qui passent toute la journée dans les salles, voilà, il y a quand même, j'ai envie quand même de féliciter. l'authenticité.
Oui, oui, oui. On peut être choqué dans la scène.
J'ai quand même dit qu'elle était irréprochable. Elle est
scientifique. Oui, oui, non, vous l'avez tous dit.
On y voit de très, très belles choses.
Mais on n'a pas de frisson.
Pour les cinéphiles les plus avertis que vous êtes, évidemment. Antoine, une publication aussi à signaler rapidement.
Oui, pour juste signaler un texte inédit d'Eisenstein qui est publié dans 1895, la revue de l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, qui s'appelle Organicité et Imagicité, où Eisenstein délire sur la ligne serpentine chez William Hogarth, et c'est génial.
Et il y en a aussi des traductions dans le catalogue qui va bientôt sortir.
Le catalogue
oui, il y a des traductions.
Un jour,
L'exposition, elle, c'est jusqu'au... Je n'ai pas noté la date, c'est très mal.
C'est jusqu'au 24 février 2020.
Merci beaucoup de me soutenir. Avant de conclure cette émission, nous avons la joie d'accueillir, c'est rare, hein, Boris Pinot. Alors cette fin d'émission.
Bravo, Boris,
qui va nous rappeler la question qu'il n'a pas posée lui-même hier, mais qu'il a quand même entendue.
On se demandait en quelle année le prix Marcel Duchamp a été créé, et vous avez la réponse, Arnaud, je crois.
Pas du tout.
En l'an 2000.
En l'an 2000. Ce soir, mon cher Boris a gagné des invitations pour le spectacle d'exposition de Michele Rizzo, à voir le jeudi 10 octobre à 21h à la Friche Belle de Mai. C'est à Marseille, et c'est dans le cadre du festival Actoran. Quelle est la question, Boris?
Quels sont les noms des deux premiers spectacles de la trilogie de Michele Rizzo que vient conclure la pièce Déposition ?
Revenez quand vous voulez, Boris. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Émission préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir, Jean Frédérics. Réalisation, Alexandre Fougeron. Lundi, 19h, dispute théâtre. En compagnie de Laura Capel, René Solis et Jean-Christophe Brianchon, nous parlerons de L'Abîme, mise en scène Thomas Ostermeyer au Gémeaux, Mal d'Aurore. D'après, le comte de Lautréamont, Benjamin Lazare au théâtre de l'Athénée. Othello de Shakespeare, mise en scène Arnaud Churin au théâtre des Abbesses.